Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énervé la Suite France Inter plus 2, Léonard de Vinci, qui revient en force dans l'actualité à l'occasion du 5e centenaire de sa mort. Ce soir au programme, sa Joconde. Et les archives de France Inter nous ont révélé un petit bijou radiophonique. Le 19 avril 1954, sur la radio-télévision française, dans son émission Les 100 Merveilles, le journaliste Pierre Lost donne le micro à Sacha Guitry. Le maître aux phrases théâtrales va donner dans un grand monologue son avis sur le tableau. Autre parole plus scientifique ensuite, ce sera celle du critique d'art Serge Bramly, auteur d'une biographie du maître, c'est Jean-Claude Lattès. Il est reçu le 3 janvier 2000 dans l'émission 2000 ans d'histoire. Il refait l'histoire de la Joconde et met en perspective ce tableau dans le parcours artistique du peintre. Et puis on retrouvera, comme hier, le duo Macha Béranger-Gonzague Saint-Brice, toujours aussi surprenant dans Allô Macha en septembre 2005. L'écrivain se livre à une interprétation pour le moins très personnelle, voire auto-érotique de la Joconde. Je vous laisse découvrir.
Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les 100 Merveilles.
La Joconde. Puisqu'il faut en finir par elle, finissons-en tout de suite et commençons par elle. Rien ne s'oppose en somme à ce que ce merveilleux chef-d'œuvre soit considéré comme le plus beau tableau du monde. Il y en a bien une trentaine, peut-être davantage, qui ont également ce privilège. Et chacun d'eux peut passer pour être le plus beau tableau du monde aux yeux de certaines gens parfaitement sincères, aux yeux de certains peintres aussi, aux yeux enfin d'individus qui, eux, ont surtout envie de se faire remarquer. Mais il est à noter que la plupart d'entre eux emploient une formule assez satisfaisante. Ils disent d'ordinaire, en parlant d'un tableau qu'ils placent au-dessus de tous les autres, « je le préfère à la Joconde », ce qui tente à prouver que ce n'est pas exact. En tout cas, on n'entend jamais dire, en parlant d'un tableau, « c'est aussi beau que la Joconde ». Parce que cela, sans doute, c'est impossible. Que ce tableau prodigieux bénéficie des millions de regards qui se sont posés sur lui, ça je le crois volontiers. J'entends par là que quand on sait que depuis 4 siècles et demi, une œuvre d'art a été fixement regardée par une incroyable quantité d'hommes et de femmes, on ne peut pas ne pas en ressentir une impression profonde, et d'autant plus qu'elle est de face. Et d'autant mieux que si l'ayant bien regardé, vous faites un pas sur votre droite, en l'occurrence, si vous placez le livre un peu sur votre gauche, c'est à vous de trouver la place qui convient, vous vous apercevrez qu'elle vous regarde à son tour. Et dès lors, ça devient une affaire entre elle et vous. Elle est reproduite ici 2 fois, à la page 13 et à la page 14. La première fois, elle est telle que Léonard de Vinci l'a peinte, avec ses admirables mains et ses Mona Lisa. C'est l'épouse du seigneur Francesco del Giocondo. La seconde fois, c'est la Joconde. Vous vous en êtes approché. Et maintenant, regardez-la. Regardez-la sans vous hâter, sans chercher à vous faire une opinion sur elle, et vous allez, je crois, vous apercevoir que vous ne regardez ni une femme ni un tableau, mais le miracle saisissant qui se produit depuis des siècles, et peut-être allez-vous vous sentir pris, envoûté par le génie. Quant à l'histoire de la Joconde, elle est bien simple. Léonard de Vinci a mis 4 années pour la peindre. Il estimait d'ailleurs qu'elle n'était pas terminée. Et il l'a vendue au roi François Ier pour la somme de 12 000 livres tournois, ce qui passait alors pour une somme immense. Mais entre nous, François Ier a fait une très bonne affaire. Car 12 000 livres tournois font aujourd'hui, je crois, de 6 à 7 millions. Et cependant, ce n'est pas ainsi qu'il faut compter. J'ai posé ce matin même la stupide question suivante à l'expert en tableau, en tableaux anciens, le plus connu que nous ayons en France. Si la Joconde était à vendre, si le gouvernement français, perdant tout à coup la raison, consentait à s'en séparer, à quel prix pourriez-vous la vendre? Il m'a répondu, je ferai savoir aux 2 hommes les plus riches du monde qu'il se pourrait que la Joconde fût à vendre, n'ayant pas caché à l'un que je l'avais offerte à l'autre. Je crois que l'ayant estimée 500 millions, elle atteindrait vite 1 milliard. Mais revenons sur la Terre. Ceux qui en ont parlé l'ont fait avec enthousiasme et ferveur, comme ils auraient parlé d'une personne vivante. Ainsi Michelet nous avoue. Cette toile m'attire, m'appelle, m'envahit, m'absorbe. En regardant Mona Lisa, Théophile Gautier se demande à lui-même de quelle planète est tombé cet être étrange, avec son regard qui promet des voluptés inconnues et son expression divinement ironique. George Sand a dit « Il est peu de figures aussi connues, il est peu de physionomies moins devinées ». Enfin, Vasari nous déclare « Au creux de la gorge, un observateur attentif surprendrait le battement de l'artère. » L'idée est ravissante et la chose est exacte, mais si l'observateur attentif dont il parle était un amoureux épris de ce chef-d'œuvre et de Mona Lisa, ce sont les battements de son propre cœur qui lui donneraient cette impression. Disons deux mots de son sourire, ou plutôt non, n'en disant rien, admirez-le. Je désirais pouvoir le mettre sous vos yeux, d'aussi près que possible, sans cependant le déformer. Il est sur la page de droite. Tel quel il est informe, mais déplacez le livre et regardez la page en large. Mais tenez, s'il vous plaît, le livre à un mètre de vous. Et sans vous soucier des craquelures de la toile, ce merveilleux sourire énigmatique et fin va vous être révélé. Peut-être y lirez-vous ce que personne au monde encore n'a pu jusqu'ici déchiffrer. Voulez-vous que nous terminions cet entretien par une anecdote incroyable, rigoureusement vraie et très symptomatique? Il y a une quarantaine d'années, un homme a volé la Joconde. Il l'a décrochée, l'a enveloppée dans une couverture, l'a mise sous son bras et, passant devant les gardiens qui veillent aux barrières du Louvre, il a dit simplement « pour la restauration ». Il l'a emportée chez lui et il ne l'a montrée à personne. Et pendant des semaines, il s'en est délecté. La Joconde avait disparu. Le bruit s'en répandit et dans le monde entier. Eh bien, il s'est passé alors une chose extraordinaire. Il a fallu organiser au Louvre un service d'ordre pour endiguer la foule innombrable des visiteurs qui venaient pour regarder le clou. Le clou auquel, pendant des siècles, avait été accrochée la Joconde. On me l'avait dit, je ne voulais pas le croire, et moi-même j'y suis allé. C'était vrai, j'ai questionné l'un des gardiens. Et tous les jours, il y a autant de monde que cela? Et le gardien m'a répondu, « Mais monsieur, c'est à ne pas croire. Elle a beaucoup plus de visiteurs en ce moment qu'elle n'en avait quand elle était là. »
Pierre Lost vous a présenté Sacha Guitry dans Les 100 merveilles.
Je vais moi-même y prendre et vous le présenter, le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Venez, venez, venez toutes, mesdames. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde.
Serge Bramley, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que pour beaucoup, au fond, Léonard de Vinci, c'est d'abord et avant tout un peintre, et puis surtout, c'est même le peintre d'un seul tableau, pour certains, la Joconde. Alors pourquoi est-ce que ce tableau est un des plus célèbres, sinon le plus célèbre du monde? Est-ce que c'est à cause, on l'a dit depuis des siècles, de ce fameux sourire?
La gloire, c'est une chose très réductrice. Léonard a essayé de mettre dans ce tableau à peu près tout ce qu'il savait faire. Non seulement de peinture, mais aussi de géologie, d'atmosphère, de physiologie. Mmh. Toutes ces connaissances, il les a, comment dire, mises en peinture dans ce tableau. C'est un petit peu un tour de force. Et c'est un tour de force tellement spectaculaire que le tableau a été reproduit à toutes les époques et par des gens qui n'étaient pas maladroits et que personne n'y est jamais arrivé. Il y a une tour de force technique, il y a un tour de force aussi dans la création.
Du coup, on l'a caricaturé d'ailleurs.
Du coup, on a fini par le caricaturer, faute de pouvoir le reproduire. Vous savez qu'au 19e, quand la diffusion de la peinture par la gravure s'est faite, un graveur comme Kalamata a mis près de 20 ans pour arriver à avoir une épreuve qui ne le satisfaisait pas de la Joconde en gravure. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce tableau a fini par représenter la peinture tout entière. C'est-à-dire que lorsque ensuite et finalement c'est le plus bel hommage qu'on a pu lui rendre, les surréalistes, les dadaïstes d'abord, Duchamp lui a mis des moustaches, les surréalistes l'ont mis à toutes les sauces. Quand la peinture ensuite a essayé de le moquer, En fait, il lui rendait un hommage parce qu'il se servait du tableau qui représentait la peinture classique. Oui. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un autre. La Joconde, c'est la peinture. Comme on veut se débarrasser de la peinture classique, on va attaquer la Joconde.
C'est un de ses derniers tableaux, il faut le rappeler, puisqu'il date de 1503. Enfin,
on ne sait pas
les dates. Il est né en 1452, il est mort en 1519, donc c'est un de ses tout derniers tableaux, disons.
Oui, les dates avec Léonard sont toujours très sujettes à caution. Mais enfin, oui, effectivement, c'est la dernière partie de sa vie, en tout cas, ça on en est sûr. Mais c'est l'aboutissement de toutes sortes de recherches. Et des recherches qui ne sont pas forcément des recherches de peinture.
On en parlera, mais bon, on a beaucoup fantasmé sur elle, et tout le monde s'est penché sur elle, des écrivains comme Oscar Wilde qui parlait du sourire archaïque de la Joconde, Freud évidemment s'est penché sur elle pour dire que c'était sans doute le portrait de la mère de Léonard quand elle allaitait. On a beaucoup imaginé de choses, il y a même un médecin je crois qui disait que la Joconde devait être sourde comme un pot et que le sourire était destiné à dissimuler le fait qu'elle était sourde en faisant croire qu'elle comprenait ce qu'on lui disait.
Absolument, et d'ailleurs on a dit aussi que c'était un homme et que ce n'est pas du tout une femme et que c'était peut-être Léonard lui-même qui se travestissait. Ouais. Enfin, toutes sortes d'âneries, d'élucubrations assez vaines. L'explication, vous la trouvez chez Léonard lui-même. Il écrit à peu près à la même époque, dans un texte qui fera partie de son traité de la peinture, « La peinture doit être une fiction capable de susciter de grandes émotions. » Et c'est ça le point important. C'est qu'il va mettre en œuvre tous les ingrédients possibles pour que le tableau soit effectivement énigmatique, dérangeant, bizarre, qui vous frappe d'une manière presque subliminale à votre insu, qu'il y a quelque chose de... Mais tout ça est parfaitement pensé, parfaitement calculé, et le fruit d'années de travail.
Mais en même temps, Serge Bramley, c'est un peu dommage, parce qu'on a le sentiment que la Joconde a occulté, il y a peu de tableaux, en tout cas, dont la paternité de Léonard soit reconnue. Il en a fait peu, il y en a une quinzaine.
Il a très
peu. Et il y en a des magnifiques. Il y en a un qui est à Cracovie, qui s'appelle La Dame à l'Hermine, qui a été peint beaucoup bien avant, 15 ans avant à peu près, 15-16 ans avant, et qui est absolument extraordinaire. Il y a aussi un sourire fabuleux. Il y a la scène par laquelle s'est fait connaître, qui est une fresque par laquelle Léonard de Vinci s'est fait connaître, qu'il a peinte à Milan.
Le tableau tout le plus reproduit au monde, plus que la Joconde.
Oui, mais en même temps, la Joconde efface presque tout.
Non, c'est vrai. Comment dire, je crois que Delacroix, dans son journal, il y a une petite phrase qui explique bien le personnage de Léonard. Delacroix, et qui s'y connaissait, c'était un homme du métier, dit Léonard, l'homme qui ne s'est jamais répété. Léonard cherchait en permanence, c'était un chercheur, c'était un curieux, c'était un aventurier de l'esprit, il cherchait en permanence de nouvelles formules picturales, de nouvelles formules tout court d'ailleurs, parce que ça s'appliquait en fait à tous les domaines du savoir. Et lorsqu'il en avait trouvé une, c'était un pas, un progrès, qui lui permettait d'aller vers autre chose. Jamais il ne revenait en arrière. Lorsqu'il a trouver la construction pyramidale avec légèrement tournante qui est celle de la Joconde, c'est vrai qu'il y avait un aboutissement, mais dont on trouve finalement toutes sortes de traces antérieures. Le sourire, ce qui est très amusant, c'est que si vous prenez le petit nombre de peintures de Léonard qu'on a, mais il y en a quand même quelques-unes, et que vous mettez côte à côte toutes les bouches de femmes, disons, vous voyez le sourire s'affiner, se modifier et parvenir à l'éclat suprême dans les deux derniers tableaux, la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est une évolution permanente. Les autres tableaux sont magnifiques, mais c'est vrai que les derniers tableaux sont l'aboutissement total de toutes ces recherches.
En tout cas, c'est pas la Joconde que vous mettez sur la couverture de votre livre, Serge Bramley, Léonard de Vinci. C'est une réédition qui a été publiée chez Jean-Claude Lattès, mais c'est l'autoportrait de Léonard. Je crois que c'est tout à fait à l'extrême fin de sa vie, il a 60 ans à peu près. Oui. Et alors, vous insistez beaucoup dans votre livre sur la beauté du personnage, sur l'aspect physique qui, selon vous, révèle beaucoup de choses.
La merveille chez Léonard, c'est d'abord Léonard, plus que son œuvre. C'est vrai que ses contemporains étaient fascinés par ses qualités physiques, qui étaient non seulement de beauté, mais de force, d'habileté, sportif accompli, danseur émérite, élégant comme un dandy. Mais il y a tout cet aspect de perfection, si vous voulez, en apparence. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que le personnage devient vraiment fascinant. C'est qu'on se dit Léonard touche à tout, allant à droite, à gauche, très curieux et tout. Mais en fait, ça devient vraiment intéressant quand on voit que ça obéit à un système et que ce n'est pas une dispersion permanente d'un esprit brillant, mais qui a tendance à papillonner, mais au contraire, celle d'un esprit, d'un homme extrêmement synthétique qui cherche dans tous les deux domaines du savoir. Et l'influence de Verrocchio est extrêmement sensible sur Léonard, ne serait-ce ne serait-ce que par exemple l'universalisme, effectivement.
On dit que Verrocchio était presque vexé que Léonard peigne mieux que lui, que l'élève peigne mieux que le maître, dans un des tableaux de Verrocchio notamment, parce que au début, Léonard ne peint pas de tableau, il participe à la peinture des tableaux de Verrocchio, et notamment il y a un ange qui aurait rendu Verrocchio jaloux, furieux, au point d'abandonner,
la peinture. C'est sûrement un peu de la légende. Ouais. Ce qui est certain, c'est que Verrocchio a dirigé un atelier, qu'un atelier à l'époque, c'est quand même comme une petite usine, qui a beaucoup de monde, il y a différents secteurs, et que c'est vrai que très vite, Léonard a été chef du secteur peinture. Et probablement celui qui intéressait le moins Verrocchio, qui était quand même d'abord et avant tout sculpteur. Donc c'est tout à fait... Je crois pas trop à ces histoires de jalousie, mais c'est vrai que très vite, Léonard a pris... Et ce qui explique d'ailleurs qu'il soit resté aussi longtemps dans l'atelier de son maître. On voit rarement un peintre ne pas chercher à voler de ses propres ailes très vite.
Et puis, il va travailler ensuite à Florence pour le compte carrément de... Je sais pas si très bien si c'est Laurent le Magnifique ou Julien de Médicis,
Pour les deux, mais des époques différentes. D'abord pour Laurent, mais on ne connaît pas les rapports avec Laurent, ouais. Et qui sont probablement pas très bons. Ouais. Ce qui explique qu'il va partir très vite pour Milan... Mais vous savez, à l'époque, la vie d'un peintre, c'est d'abord de se chercher un protecteur. Alors, il y a ceux qui arrivent à en trouver un qui dure longtemps. Il y a les autres qui sont sans arrêt. Ça va être formidable avec Ludovic Lemort.
Alors,
à
donc,
Milan.
Il quitte, oui. Il faut rappeler, c'est à Milan. Il va à Milan en 1582. En 1482.
80 plutôt.
Oui,
80.
Vous dites, on ne sait pas très bien quelles sont les dates.
Non, on ne sait pas très bien quelles sont les dates. Et il va y rester jusqu'à 1500. Il y a donc 20 ans à peu près de travail au service du mort qui sont probablement 20 ans, 20 années de bonheur, de réussite, de travaux multiples, de vie intellectuelle riche et féconde. Il est très heureux à Milan. Et puis, la guerre arrive. Les Français descendent en Italie. Il est obligé de... Et ensuite, à partir de ce moment-là, ce n'est qu'une longue recherche de protecteur. Et donc, toutes les errances de Léonard, on les explique d'abord par le fait qu'il lui faut un maître.
À élucider le mystère de cette fascination planétaire pour Mona Lisa.
Alors il y a deux choses. Il y a certains qui pensent que la Joconde...
Ce petit sourire comme ça, très énigmatique, inquiétant, on ne sait pas.
Exactement.
Ce qu'il avait.
Ouais. Cette Madone peu malsaine finalement.
Ouais, bizarre.
Certains disent que les mains posées sur le ventre, elle est enceinte.
Ouais.
D'autres disent au contraire que c'est une morte. Et là, il y a une histoire merveilleuse qui passionne les surréalistes, qui est l'histoire de la jeune fille de la Seine. Nous sommes sur les bords de la Seine à Paris. Le dimanche, il y a un peintre du dimanche qui est là tranquillement en train de faire ses dessins. Et tout d'un coup, une jeune fille, sans doute après un chagrin d'amour, un amour malheureux, c'est mal terminé, enjambe le pont et se jette dans l'eau grise de la Seine, se suicide, car à l'époque c'était là qu'on se donnait la mort. On appelle les pompiers qui arrivent avec leur barque et tout ça, mais en retard, on relève le cadavre, car elle est morte, de la jeune fille, de l'inconnue de la Seine, c'est comme ça qu'on va l'appeler. On la tire sur le pavé du quai, et là, le peintre du dimanche la dessine à toute vitesse, la croque avec son fusain. Sans regarder ce qu'il a fait, il plie son dessin dans son carton, il rentre chez lui. Une semaine après, sa femme lui dit « T'as vraiment du talent, toi ?» l'esquisse que tu as faite de la Joconde est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que peut-être, comme Léonard connaissait tous les mouvements des muscles, peut-être que cette Joconde a le sourire d'une morte, c'est-à-dire non pas le sourire en V comme nous les vivants, mais le sourire contraire, comme vous le voyez dans la Joconde, et deuxièmement, les mouvements des muscles dans le trépas, qui serait le contraire de la vie.
Est-ce qu'elle vous plaît, Mona Lisa ?
Non, franchement, ouais, elle ne m'a jamais plu.
Ça me rassure.
Parce que je ne peux pas penser qu'un homme d'une si grande intelligence, d'une telle générosité de sa connaissance, Léonard de Vinci, n'ait laissé des secrets au Clos Lucé. Et quand j'étais enfant, les gens qui habitaient ce château, qui sont les personnages de ce roman, eh bien, ces gens m'ont dit, toi, quand j'ai eu 13 ans, d'abord, mon père m'a convoqué dans la salle des gardes du Clos Lucé.
Oui.
Et il m'a dit, très, très digne, il m'a dit, maintenant tu as 13 ans. C'est l'âge de la robe prétexte chez les Romains. C'est l'âge de la majorité chez les rois de France. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, à aller dormir dans le lit de Léonard. Ça te donnera des idées.
Ça te donnera
des
idées.
Mais il n'y avait pas que mon père. Il y avait les gens qui vivaient autour. Il y avait une vieille demoiselle, Mademoiselle Vogt. Il y avait un chanteur d'opéra qui avait été gazé pendant la guerre de 14, qui avait perdu sa voix. Et c'est lui qui m'a dit un jour, viens, je te parlerai de la femme du gendarme. Et la femme du gendarme, c'est Mona Lisa. Car son mari était le chef des gendarmes de Florence. Et elle est la troisième épouse de Bartolomeo di Zambini di Giocondo, un homme rogue, rustre, riche, vieux, barbu, jaloux, et qui est le commandant de la gendarmerie de Florence. La Joconde a 24 ans, et quand elle est peinte, elle est entièrement bleue. Je révèle que la Joconde est bleue.
Vous révélez que la Joconde est bleue.
Et d'ailleurs, le grand conservateur du Louvre, Pierre Rosenberg, le confirme. Elle est d'un bleu lumineux. Mmh. Et maintenant, vous avez une Joconde avec une marée verdâtre. Ce n'est pas
jaunasse,
la vraie couleur de la Joconde.
Verdâtre,
et sa robe était d'un jaune épicé.
Ouais. Alors,
je révèle aussi que on a vu au Clos Lucé un tableau apparaître. Parce que vous savez, ce qui est très extraordinaire, ce sont les récits des ambassadeurs.
Oui.
Notamment des ambassadeurs de la République de Venise. Comme ça, on sait ce qui s'est passé. Par exemple, on sait que le cardinal d'Aragon vient visiter Leonardo da Vinci au Clos Lucé où François Ier l'a installé. Et là, le secrétaire du cardinal, Antonio de Beatis, raconte, j'ai vu les trois masterpieces, les trois chefs-d'œuvre de Léonard. Mais j'ai aussi vu le portrait d'une dame florentine, peinte au naturel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nue.
Oui.
Et il parle de ce tableau qu'on ne reverra plus, qui s'appelle la Mona Vana, la Joconde nue. Elle a véritablement existé, la Joconde nue.
Il est où, alors,
alors on peut se dire Gonzague invente dans son roman. Pas du tout. Le grand spécialiste de Léonard de Vinci, Carlo Pedretti,
le plus grand spécialiste de Vinci dans le monde. Oui.
Voilà. Confirme l'existence de la Joconde nue. Et d'ailleurs, il y a un carton au château de Chantilly qui montre cette Joconde nue, la Mona Vana. Et moi, je vais vous dire, la première femme au sein nu que j'ai vue, c'était une fresque de Léonard de Vinci. J'allais m'enfermer dans un placard à balais, qui était des balais très hauts, avec des loups, vous savez,
des poussières très hautes, des lustres.
Et les
toiles d'araignées.
Et j'étais devant une femme avec une carnation magnifique, qui tenait une pomme devant son sein gauche.
Ouais.
C'était une fresque de Léonard de Vinci dans la pénombre. Elle s'appelait la Pomone, et depuis je ne cesse de rechercher cette forme parfaite.
Est-ce que vous l'avez retrouvée? C'est quand même pas mal
pas
pour une question sexuelle quand même de commencer.
Exactement.
Par Léonard de Vinci, ça va oui, que pleinement quand même.
Exactement. Je me suis énormément dépensé sur les images de Diane de Poitiers, Agnès Sorel, qui sont des femmes dont les poitrines ne connaîtront jamais la sécheresse.
Dance in this bitch, gon' be case closed. Made a 100 bands off a brick. Made a 100 bands off a brick. Per day, yo. Send my girl to church with some drug money. Told her pay my tithes, thank you, damn.
Do you want take me to my favorite show? Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cost 90 days. Day 3, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me, once I'm yours to obtain? What's my fruits of a taking, and you flow through my veins? Do you still think I'm beautiful, when my tears fall like rain? My love is so bountiful, for a man who's true to me.
Yeah. I hope you never take my love in vain. Put a thunder through the window, I see rain. Water the corn, play with snakes in my man. Oh, yeah. Making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison and forever my lady. Oh, throw loads of God on you just to fall asleep. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak. We die together, the prophecy complete, yeah. We can hardly touch the sky until we deceased, yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps, yeah. Calling my name. Taking the feeling up from others, ain't no way.
The man who can follow me is born.
Terrain où la collaboration tant attendue entre FK Twigs et Future. Retour à Mona Lisa pour cette soirée du Énervé la Suite France Inter Plus de Léonard de Vinci. En 2006, le 31 décembre, Fabienne Chauvière consacre son émission Osmose à l'étude scientifique de la Joconde. Et dans le studio de France Inter, elle reçoit Michel Menu et Bruno Motin, les co-auteurs du livre Au cœur de la Joconde, Léonard de Vinci décodé, pour une étude scientifique à l'occasion du changement de vitrine du tableau.
Oui, on savait que ce tableau était assez bosselé. C'est pas un tableau parfaitement plan, c'est un tableau qui a un creux
c'est
sur
pas
la
une
gauche.
Toile, hein.
Un tableau sur bois, oui, il y a un creux sur la gauche et une bosse sur la droite. Donc on voulait savoir quels étaient les mouvements de ce bois. Et on était très inquiets du fait de la présence d'une fente qui part du bord supérieur gauche, qui va jusqu'au niveau du front et qui nous faisait souci, qui faisait très souci aux conservateurs. La question était comment se comporte la fente. Il fallait savoir si elle était susceptible de se développer, de se poursuivre et donc de diviser le tableau en deux, ce qui aurait été terrible, ce qui justifie d'ailleurs totalement les mesures de sécurité de conservatoire qui sont prises autour de cette œuvre. Mais différentes techniques d'analyse nous ont montré qu'il s'agissait d'une fente qui était fort heureusement sans doute très ancienne. Le réseau de craquelures d'une peinture, c'est-à-dire la couche picturale d'un tableau, forme ces craquelures aux alentours de 50 à 100 ans après sa création. Et on a pu réaliser que la fente existait avant la formation du réseau de craquelures. Donc c'est une fente très ancienne, qui a été consolidée anciennement, donc qui nous a un petit peu rassurés. Par contre, le tableau reste fragile, il est bombé, et il faut absolument le conserver dans de bonnes conditions si on veut le transmettre aux générations futures.
Alors, quelles étaient les autres questions que vous vous posiez encore? Quels étaient les pigments utilisés par Léonard? Quelles étaient ses techniques?
L'une des grandes questions, effectivement, ça a été comment le tableau est fait. Est-ce que ce personnage polyvalent, inventeur, qui a toujours cherché en fait des solutions nouvelles et des instruments nouveaux, comment donc cet artiste a pu peindre sa Joconde, hein? En fait, il s'avère que dans l'état actuel, bien entendu, de nos connaissances, hein, on n'est pas absolument certain de tout savoir sur ce tableau. Il y a encore plein de choses à découvrir, hein, mais il s'avère que Léonard a utilisé des moyens assez traditionnels, en fait, pour son époque. Il écrit dans son traité qu'il faut peindre sur noyer. Il l'a fait sur d'autres œuvres, mais là, il utilise du peuplier, qui est le tableau, le support bois,
bizarre,
utilisé communément à Florence. Donc, il l'a fait comme tout le monde, dans quelque sorte. Par contre, il a peint sur une plante extrêmement fine. Les peintres, d'habitude, peignent sur des tableaux d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Là, il a pris quelque chose de beaucoup plus fin, une fine planche, unique planche en plus, pour peindre son portrait. C'est assez amusant parce que ce type d'usage de planches uniques et larges est plutôt un type flamand de peinture. Les Italiens prennent plutôt des grosses planches bien épaisses, en disant puisque c'est gros, ça va bien se conserver. Alors que Léonard ici a utilisé une planche fine comme le faisaient les Flamands. Et on a pu démontrer, notre radiologue, médecin radiologue Elisabeth Ravo a pu démontrer que le panneau était très probablement à l'origine enserré dans un cadre qu'il prenait par la face et par le revers. Passons à le maintenir. C'est sans doute d'ailleurs ce cadre qui a généré la fente. Et ce type de prise en rainure, c'était une méthode aussi extrêmement flamande de principe. C'est quelque chose, il doit admirer beaucoup ce qui se fait dans le nord de l'Europe et il veut les égaler.
À votre avis, lorsqu'il a choisi sa planche, est-ce qu'il avait déjà en tête l'idée d'un tableau exceptionnel? Parce que le peuplier, c'est pas un bois très noble quand même.
Le peuplier est un bois qui est utilisé à Florence au début du XVIe siècle, donc il n'y a rien de spécial de ce côté-là. C'est une grande planche, mais il faut tout de même reconnaître que Léonard de Vinci a rencontré un obscur marchand de tissus de soie de Florence, Francesco del Giocondo, qui lui a demandé de peindre le portrait de sa femme, qui est aussi une femme qui n'a aucune notoriété dans la Florence du début du XVIe siècle. La chose surprenante, c'est que Léonard est accepté de peindre ce portrait alors qu'il était reçu par les plus grandes cours d'Italie de l'époque, hein, et qu'il ait choisi de faire le plus grand portrait qu'il ait jamais peint, le plus grand en taille, j'entends, pour cette femme obscure. Et c'est déjà quelque chose d'assez étonnant, qui montre que Léonard a voulu mettre quelque chose dans son œuvre.
Une femme obscure et sublime.
Une femme obscure, peut-être. En tout cas, elle est belle, c'est vrai. Elle n'est pas de grande réputation, elle ne joue pas un rôle, son mari ne joue pas un rôle politique, elle non plus. Mais Léonard a choisi de la peindre, peut-être parce que ça lui apportait quelque chose aussi à lui.
Alors Bruno Motin, est-ce que Mona Lisa aurait pu écouter ce chant composé au XVIe siècle?
Alors il faudrait voir quelle est la date précise de cette chanson.
On demandera à Karl Vasseur.
Oui. Mais ce qui est très amusant, c'est de penser à ce qu'a écrit Giorgio Vasari en 1550. Giorgio Vasari est un toscan qui a écrit la vie des peintres, les vités, les peintres de son temps. Et il parle de la Joconde dans ses textes. Et il y a une phrase très très intéressante à propos de la Joconde. Bon, Vasari a sans doute un petit peu brodé, un petit peu inventé. Il a voulu glorifier en fait les grands peintres florentins. Et à propos de Léonard et de Mona Lisa, voilà ce qu'il écrit. Mona Lisa étant très belle, il conviait, tandis qu'il faisait son portrait, des gens à jouer de la musique ou à chanter, et sans cesse des bouffons qui la maintenaient joyeuse, pour éviter de cette façon cette mélancolie que la seule peinture donne aux portraits qui se font. Et dans celui de Léonard, il y avait un sourire narquois tellement agréable que c'était chose plus divine qu'humaine à voir, et elle était tenue pour une chose merveilleuse, sans différence avec la vie. C'est ce qu'écrit Vasari, qui n'avait jamais vu ce tableau. Il faut bien préciser qu'en 1550, le tableau était depuis le départ de Léonard en France, en fait. Il était parti en France, puis il fait partie des collections François Ier et des rois. Donc Vasari ne parle que par on dit de cette fameuse Joconde. Il parle de ses sourcils, alors que la Joconde n'a pas de sourcils, par exemple. Au XVIe siècle, la Joconde était un tableau donc, qui était devenu un tableau perdu en fait, pour l'Italie, loin dans la cour de France, et que Vasari a décrit par on dit.
Michel Menu, qu'est-ce qu'on a trouvé sur la Joconde dans ce laboratoire de recherche des musées de France? On a trouvé les trucs et les recettes de Léonard de Vinci?
On a défini quels furent les différents pigments utilisés par Léonard.
Car pour en revenir à la Joconde, quand on disait tout à l'heure qu'elle n'a pas vieilli, elle n'est pas aujourd'hui sous les yeux du public comme elle l'était lorsque Léonard l'a
De toute façon,
parce qu'il l'a pas terminé d'ailleurs.
Donc,
je crois.
De toute façon, on n'a pas les mêmes yeux que les contemporains de Léonard, oui. Les contemporains du XVIe siècle. La façon de voir les choses est tout à fait liée également donc à la perception qu'on peut avoir de la lumière, des couleurs, du développement de la mémoire et du cerveau. Bon, ça c'est quelque chose qui nous entraînerait extrêmement loin. Mais de toute façon, le tableau a subi le passage du temps. Il y a les craquelures dont on a parlé à plusieurs reprises, plusieurs vernis qui ont été déposés.
Plusieurs restaurations.
Le tableau a subi un certain nombre de dommages. Il a été volé On l'a agressé. Un Bolivien en 1954, je crois, a lancé une pierre sur le tableau. Et donc, dans l'ouvrage qui est paru chez Gallimard, on a une photo de cette agression de la Joconde.
Bruno Motin, quelle est l'histoire de la Joconde ? Donc, Léonard l'a commencé en Italie.
On l'appelle Léonard maintenant. Léonard de Vinci, oui, c'est Léonard. Son petit prénom, c'est d'ailleurs comme ça qu'il était appelé par ses contemporains. Léonard de Vinci était donc à Florence vers 1508. Il revenait de Milan où il avait connu un semi-échec, puisqu'il avait... exécuté la fameuse scène pour un grand couvent de Milan avec une technique qui lui était propre et qui...
Donc la fameuse scène, C-E-N-E.
La fameuse scène CENE, avec une technique qui s'est révélée mauvaise. Il y avait une injonction d'huile et la peinture du vivant même de l'artiste a commencé à se dégrader. Donc, il est revenu de Milan avec ce chef-d'œuvre, mais qui posait des problèmes techniques et venait en plus de recevoir une commande pour une grande bataille, la bataille d'Anghiari, pour le Palazzo Vecchio de Florence, qui s'est elle-même soldée par un échec. La technique utilisée par Léonard sur la bataille d'Anghiari s'est dégradé tout de suite. La peinture murale n'a pas tenu et on a décidé de mettre fin à cette expérience. Et là-dessus, il rencontre donc Francesco del Giocondo, marchand de soie de Florence, qui lui demande de peindre le portrait de sa femme, Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. Là, il y avait deux hypothèses jusqu'à présent. Pour commémorer la naissance de son second enfant, qui est né vers 1508, soit pour marquer l'acquisition d'une maison que Monsieur Della Crondo fait à Florence à ce moment-là. Et Léonard accepte de faire cette œuvre, de la commencer en tout cas, puisqu'il est un petit peu en panne de commandes. Il attend une commande du roi de France pour la fameuse Sainte-Anne, qui est maintenant au Louvre, mais il semblerait qu'il ne l'ait pas encore reçue à ce moment-là. Il vient d'arrêter la bataille d'Anghiari, donc il commence son portrait, qui ne finit pas, semble-t-il, et qui ne donne jamais à son commanditaire. Mona Lisa ne verra jamais son portrait dans sa maison. Il emmène ce tableau avec lui jusqu'à Amboise. Et ça fait partie de l'ensemble d'œuvres qui sera ensuite vendu via un intermédiaire, via l'élève de Léonard Francesco Melzi, qui sera vendu au roi de France et qui ne sera donc jamais livré à son modèle.
On pense même qu'il a continué à travailler sur l'œuvre en France.
C'est ce que l'on dit. Nous n'avons malheureusement pas réussi à mettre en évidence de changements notables de composition ou d'adjonction qui puissent dire qu'est-ce qu'il aurait fait en France ou qu'est-ce qu'il aurait fait en Italie. C'est une hypothèse. Il y a une toute petite zone du tableau qui est sans doute inachevée, tout près de l'épaule gauche du modèle. Mais là, c'est encore une question qui reste à solutionner.
Une tache un peu sombre.
Voilà. Il est couvert par un vernis qui est assez irrégulier.
Vient d'où ce vernis ? Il y a eu plusieurs couches de vernis ?
On sait que lorsque les tableaux étaient dans des grandes collections, notamment les collections royales, des peintres étaient spécialement chargés d'entretenir les œuvres. Hein. Le premier d'entre eux est Francesco Primaticcio, dit le Primatis, qu'on sait avoir été payé pour avoir lavé, on disait autrefois lavé, les tableaux. Il a été payé pour avoir refait le pied du Saint-Michel de Raphaël, par exemple, du Louvre, et ceci donc dès 1540-1550. Et tous les tableaux ont régulièrement été entretenus. Les vernis ont été soit retirés, soit couverts par une autre couche de vernis, et ceci régulièrement. Charles Lebrun assurait cela, Durameau aussi. Au XIXe siècle, le tableau a également été reverni. Mais malgré tout, tout cela a été fait somme tout assez correctement et l'œuvre arrive à nous en très très bon état.
Ce tableau, c'est un mythe. Ce qui est formidable, c'est qu'avec les outils des scientifiques, Michel Menu, finalement, on peut montrer à quoi elle ressemblait quand Léonard de Vinci l'a peinte.
Ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la Joconde, par ses différentes aventures, est devenue une icône. Et est-ce qu'on la regarde encore véritablement? Et les outils des scientifiques vont aider à voir, en fait, ou à revoir ce tableau, à essayer de la voir de plus près, hein, du moins, essayer de recomprendre le paysage qu'il y a derrière la Joconde qu'on ne voit pas, qui est dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement compliqué et que Daniel Arras a évoqué dans ses émissions de France Culture. Il en a fait une consacrée à Léonard de Vinci et donc il parle de ce paysage tout à fait intéressant qui pourrait être la représentation de la carte de la Toscane. Les outils des scientifiques, les photographies aux différentes longueurs d'onde, hein, donc de l'infrarouge à l'ultraviolet, les radiographies avec sous différentes conditions. Hein, donc, ont permis de retrouver les différentes images, la véritable image de la Joconde. Bon, les outils des scientifiques.
Des couleurs aussi.
Les couleurs aussi. Donc là, je dirais que c'est un travail en cours. Hein, donc parce que il y a de nombreuses, j'évoquais déjà une recherche sur les mouvements du bois et les conditions de conservation. On a aussi des recherches sur les techniques de Léonard, quelles sont sa façon de peindre, sa façon de déposer les couches picturales sur le support de bois.
Donc avec toutes ces études, on peut presque voir à travers la peau de cette belle Joconde, à travers ça, la couleur de sa carnation.
Nos outils cherchent à aller dans la transparence des couches picturales, transparence qui va être différente en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de si on se trouve dans l'infrarouge, dans le rouge, dans le bleu ou dans l'ultraviolet, eh bien on va avoir accès à différentes couches hein, de la matière picturale.
Bruno Motin, il y en a beaucoup qui ont déliré sur la Joconde. On dit que Léonard de Vinci a mis de nombreux codes dans cette œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, on a beaucoup déliré. C'est un tableau qui a tendance à cristalliser beaucoup d'énergie, bonne et mauvaise. C'est un tableau magnifique qui mérite d'être regardé de près et qui mérite en quelque sorte sa réputation, même si elle est surdimensionnée. Il y a d'autres tableaux très importants dans l'histoire de la peinture qu'il faut absolument regarder. Ce que j'espère, c'est que le fait d'apprendre à voir la Joconde apprenne aussi à voir d'autres tableaux. Et ça me paraît très très important de savoir regarder Léonard, bien entendu, dans toute son œuvre. Vous savez que le Louvre est le musée le plus riche au monde en tableau de Léonard de Vinci. Il y a aussi des œuvres de Raphaël, il y a des œuvres de l'entourage de Michel-Ange. Et le Louvre est plein de tableaux magnifiques, mais ne cherchons pas des codes. Hein. Il y a des choses qui sont exprimées par les artistes dans leurs œuvres. Fort heureusement, ils nous passent un message. Hein. C'est quelque chose qui vient d'eux, qui est exprimé avec des moyens picturaux, une technique en deux dimensions ou en trois dimensions lorsqu'il s'agit d'une sculpture ou d'un objet. Il y a véritablement une expression artistique et quelque chose qui nous est dit intimement, mais c'est pas un code secret. On n'y trouvera ni trésor, ni message sur les Templiers ou autre chose.
Et avez-vous retrouvé sous l'œuvre de la Joconde des esquisses, des petits traits?
Alors on a trouvé effectivement des informations sur le processus de peinture de l'œuvre. On a vu notamment que comment le siège sur lequel la Joconde est assise est constitué. Il est constitué de petites toupies sur lesquelles se pose un appui. On a vu également que Léonard a modifié le tracé de la main gauche du modèle, qui était peut-être plus crispé sur le fauteuil qu'auparavant. On a vu aussi très précisément que la Joconde est couverte d'un voile retenu à l'arrière sur ce qui est sans doute un chignon. Et on voit plus nettement la robe de la Joconde qu'on ne peut le voir sous le vernis grâce à différentes techniques comme la réflectographie infrarouge par exemple.
C'était le Énervé, France Inter Plus de Léonard de Vinci, deuxième épisode La Joconde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Vinci et l'incroyable affaire de la Flora. Je vous souhaite le bonsoir.